écoutez Radio Sud-Manche. Émission itinéraire Bémontois, au micro Jackie Prudor. Bonjour à chacune et chacun, merci de votre fidélité. Merci aussi pour les messages reçus suite à la précédente émission. Je vous répondrai quand l'émission sur les marais sera totalement achevée. Hormis quelques remarques et oublis que j'évoquerai dans quelques instants, continuez de m'écrire à tombelaine@orange.fr. Merci d'avance. La dernière fois, après un peu de vocabulaire au premier chapitre, nous avons largement commencé le chapitre 2 de l'histoire des marées de Aristote à Galilée, ces grands hommes qui ont permis d'avancer sur ce sujet qu'est la marée. Désolé, je ne connais pas de femme qui soit restée célèbre sur le sujet des marées, excepté Madame Odile Guérin et ses livres dont je vous parlerai plus tard. Au programme d'aujourd'hui, nous allons achever le chapitre 2 sur les grands hommes qui ont fait l'histoire des marées. Nous aborderons ensuite le chapitre 3, la théorie des marées ou les marées pour les nuls ou tout ce que vous voulez savoir sur les marées. Enfin, chapitre 4, tous les compléments indispensables, les coefficients, les pendules à marée, le pourquoi des mascarets, les conséquences de la différence entre flux et reflux, etc. Complément de l'émission précédente, je vous ai parlé de l'estran, cet espace entre les deux lignes, la ligne basse, l'altitude zéro, là où la mer va au plus loin qu'il est possible, et la ligne haute, là où commence la terre. La surface comprise entre ces deux lignes, ligne basse et ligne haute, est en baie du Mont-Saint-Michel de 250 km², c'est-à-dire la moitié de la baie du Mont-Saint-Michel qui fait 500 km². Galilée. En réalité, il s'appelle Monsieur Galileo Galilei. En français, on dit Galilée. Il est né en 1564 et non en 1534, comme je l'ai écorché la fois dernière. Merci à la dame qui m'a mentionné cette anomalie. Mais il est bien décédé en 1642. Nous en sommes donc restés à Galilée et son procès devant le tribunal de l'Inquisition qui le condamna jusqu'à la décision de Jean-Paul II en 1992 de rétablir la vérité sur les découvertes du grand homme. On dit, sans en être certain, qu'à la fin de son procès devant le tribunal de l'Inquisition, Galilée aurait prononcé cette phrase devenue célèbre « Et pourtant elle tourne !» Il parlait de la Terre tournant autour du Soleil, évidemment. Pour clore, je dois vous poser une question. Qui a dit « Galilée avait réussi à faire tourner la Terre, mais les évêques l'ont torturé parce qu'ils voulaient qu'il la fasse arrêter ?» C'est tout droit sorti du célèbre livre « La foire au cancre » d'un certain Jean Charles dans les années 60, je crois. Et oui, elle tourne dans un système héliocentrique, désormais démontré, n'en déplaise aux amis des fausses infos, des fake news, comme on dit lamentablement aujourd'hui en franglais, ce dont j'ai horreur, ou aux complotistes de tout poil. Passons et poursuivons. Nous en étions donc à l'ami Galilée, fondateur de la physique moderne.
Raconte-moi la mer, dis-moi le goût des algues. Et le bleu et le vert qui dansent sur les vagues. La mer, c'est l'impossible, c'est le rivage heureux, c'est le matin paisible quand on ouvre les yeux. C'est la porte du large, ouverte à deux bâtons. C'est la tête en voyage vers d'autres continents. C'est voler comme Icare au-devant du soleil, enfermant sa mémoire à ce monde cruel. La mer, c'est le désir de ce pays d'amour qu'il faudra découvrir avant la fin du jour. Raconte-moi la mer. Dis-moi ces aubes pâles. Et le bleu et le vert où tombent des étoiles. La mer, c'est l'innocence du paradis perdu, le jardin de l'enfance où rien ne chante plus. C'est l'écume et le sable toujours recommencé, et la vie est semblable au rythme des marées. C'est l'infinie détresse des choses qui s'en vont. C'est tout ce qui nous laisse à la morte saison. La mer, c'est le regret de ce pays d'amour que l'on cherche toujours et qu'on n'atteint jamais. Raconte-moi la mer. Dis-moi le goût des algues. Et le bleu et le vert qui dansent sur les vagues.
Vous avez bien évidemment reconnu M. Jean Ferrat et sa chanson « Raconte-moi la mer », ce que j'essaye de faire pour une seconde séance aujourd'hui. Après le grand homme que fut Galilée, je vais évoquer Tycho Brahe, astronome danois, 1546-1601. Il a créé et développé de nombreux instruments astronomiques. Sa mesure de l'orbite de Mars fut très importante dans le développement de l'astronomie et donc des marées. Monsieur Johannes Kepler, 1571-1630, donc contemporain de Galilée. Jusqu'à Monsieur Kepler, on pensait Certains le pensaient que la Terre tournait autour du Soleil, mais sur une orbite qui était circulaire. Or, M. Kepler a démontré que, ben non, ça n'est pas une orbite circulaire, mais c'est une orbite elliptique, donc une ellipse. Il a développé ses lois sur le mouvement planétaire au nombre de 3, mais trop compliqué pour notre introduction. Il est le premier à donner les équations montrant l'influence conjuguée des planètes sur notre planète Terre. Si vous préférez, une marée se calcule comme étant la somme de plusieurs équations, chacune évaluant l'influence de chaque planète de notre système. Le fait que la course de la Terre soit elliptique entraîne que la Terre est donc plus proche ou plus éloignée du Soleil selon les périodes de l'année, donc été et donc hiver selon qu'on est proche ou qu'on est loin. Ce n'est pas la seule explication, mais cela y contribue. Newton, Isaac Newton, mathématicien, physicien et astronome anglais, 1642-1727. Il découvre la gravitation universelle avec sa fameuse pomme qui tombait à terre quand on la lâchait, et qui sera la base de la physique moderne. Il s'intéressa de près aux marées sur le plan scientifique et fit progresser le schmilblick. Détail, il fut traduit en français par une femme merveilleuse, la comtesse Émilie du Châtelet, qui fut la maîtresse de Maupertuis, avec qui elle apprit les mathématiques, mais qui fut surtout la maîtresse et le plus grand amour de notre célèbre Voltaire. Pierre Simon, marquis de Laplace, 1749-1827, il a donc connu la Révolution. Mathématicien, physicien et astronome français. Il fut l'homme qui s'intéressa aux coefficients de marée. On ne peut pas omettre un homme qui invente une chose si utile à notre quotidien de Baie-Montois et de Baie-Montoise que nous sommes. Que ferions-nous sans les coefficients de marée? Quel Baie-Montois n'a pas à portée de sa main son annuaire des marées avec leurs coefficients? Henri Poincaré, mathématicien, 1854-1912. Tous les matheux qui ont travaillé sur le problème de la gravité ont eu un rôle important dans le calcul des marées. Poincaré est l'un de ceux-là. Il a fait progresser beaucoup de calculs, aboutissant à une meilleure précision dans le calcul des marées. Attention, ne pas confondre avec son cousin Raymond. Raymond Poincaré, le politicien qui fut président du Conseil. Celui-là même qui, venu au Mont-Saint-Michel, nous fit une farce en 1929, me permettant d'en faire une autre à M. Dominique de Vulpin, Premier ministre à cette époque, le 16 juin 2006, jour de l'inauguration du chantier rétablissement du caractère maritime, dit chantier RCM. Je vous raconterai cette anecdote si vous continuez d'être sage. Beaucoup d'autres savants et ingénieurs pourraient être cités. Mais il faut bien s'arrêter quelque part, et je pense que pour une initiation au sujet des marées, vous avez effectué une visite historique et scientifique assez complète. Je voudrais juste évoquer le fait qu'après Poincaré, il y a eu des matheux de la filière algorithmique. Vous savez, ces programmes compliqués qui font des calculs de logique à la place des humains. Un exemple d'algorithme très simple, une recette de cuisine. D'abord on fait ceci, comme ci, comme ça. Ensuite on fait ceci, ensuite on fait cela, puis on fait ci, puis on fait ça, etc., etc. C'est ça un algorithme. Alors imaginez la même chose, mais avec des calculs un peu compliqués. Savez-vous par exemple que les services dotés des plus gros calculateurs en France sont, d'une part, la direction des études et recherches de EDF, où j'ai travaillé près de 15 ans, de 75 à 89, mais aussi la Météo Nationale ou Météo France. Il y a tant et tant de calculs énormes pour optimiser qu'il faut des ordinateurs très puissants et donc des mathématiciens pour concevoir les programmes adéquats, qu'on appelle donc algorithmes, qui font gagner un temps fou. On fait des prévisions plus précises et à plus longue date. Et oui, la météo, c'est d'abord une histoire de calculs mathématiques très complexes, comme les marées. Fini le temps de la grenouille d'Europe numéro 1. Vous voulez un exemple? Ok. Imaginez que vous deviez visiter 5 personnes dans une même journée. Essayez de trouver le chemin le plus court tout en étant assuré de visiter chacune de ces 5 personnes. Facile à faire, me direz-vous. Bien évidemment. Imaginez maintenant que vous avez 20 chauffeurs, chacun ayant son camion, donc 20 camions, qui vont livrer chez environ 50 personnes chacun, dans la même journée. Vous faites comment, là ? Ceci clôt notre chapitre sur l'histoire des marées. Dans un instant, nous passons au chapitre 3, la théorie des marées, ses grandes lois, ses grands principes.
C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mordi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient « Sois prudent, la mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. » C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur sur la mer en furie. J'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je me suis cogné partout, j'ai dormi dans des draps mouillés. Ça m'a coûté des sous, c'est de la plaisance, c'est le pied. Dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au bord, au bout de la jetée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une bite d'amarrage, elle pleure, son homme qui la quitte. La mer c'est son malheur, dès que le vent soufflera, je repartira. Et que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai aux quatre vents foutre un peu le boxon. Jamais les océans n'oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris et mon bateau aussi. Il est fier mon navire, il est beau mon bateau. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau. Les Tabarly, Pajot, Kersauzon et Riguidel naviguent pas sur des cajots ni sur des poubelles. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus ma mère, ton fils est matelot. Ne pleure plus mon père, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requin.
Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons.
Dès que le vent soufflera, nous repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en allerons de lapin.
Thank you.
Pour ce chapitre, nous allons faire des mathématiques avec une broche à rôtir les poulets et une bassine d'eau. Si, si. Écoutez bien, si vous n'êtes pas attentif, ce sera difficile car je n'ai pas d'image à vous montrer pour vous explicationnatiser mon propos, comme j'en avais lorsque j'étais guide en baie du Mont-Saint-Michel. Je suis obligé donc d'utiliser toutes les astuces possibles pour vous faire comprendre les trucs et les machins, parfois un petit peu compliqués. Mon but est que tous les auditeurs comprennent. Je vais donc expliquer une ou deux fois la même chose, de façon différente, afin que chacune et chacun y trouve ce qui lui conviendra. Le premier principe à connaître est la force de la marée et sa concrétisation. On sait qu'elle nous vient, cette force, des planètes qui nous entourent, en particulier, voire majoritairement, de la Lune, notre propre satellite. On se souvient de la fraction évoquée lors de la séance précédente, donnant la force que nous envoie la Lune, avec au numérateur la masse de la planète et au dénominateur le carré de la distance qui nous sépare de cette planète. Mais comment cela se concrétise-t-il sur notre planète Terre ? Imaginez la Terre, puis la Lune. La Lune tourne autour de la Terre en un jour. La Terre tourne sur elle-même en un jour, en faisant le tour du Soleil en un an. La Lune attire vers elle nos océans. Elle attire l'eau vers elle. Et comme elle tourne en permanence autour de nous, elle fabrique deux bosses opposées sur notre Terre. L'une du côté et au plus près de la Lune, l'autre à l'opposé sur le même axe. Notre Terre devient donc, en exagérant un peu, une sorte de ballon de rugby. Bien sûr, j'exagère le coup du ballon de rugby, mais c'est pour que vous compreniez mieux la chose. La Lune tourne autour de la Terre en permanence. Donc en permanence, la partie de notre Terre qui fait face à la Lune change. Un moment c'est l'Asie, un autre c'est l'Europe, etc. Et ce sont les mers de ces zones qui se déforment successivement, qui s'étirent vers la Lune, ainsi que la zone opposée. Notre Terre est donc bien une sorte de ballon de rugby dont la première bosse est dirigée vers la Lune, l'autre bosse à l'opposé sur le même axe, en permanence. D'accord ? Ou si vous préférez, notre bonne Terre est un ballon de rugby permanent, dont les bosses n'arrêtent pas de se déplacer autour de la Terre. La Lune se trouve dans l'axe de ce ballon de rugby qu'est la Terre déformée par les marées. C'est ainsi, on n'y peut rien. C'est la nature depuis que nous avons un satellite autour de nous qui se nomme la Lune. Une autre façon de percevoir tout ça. Imaginez votre broche à faire rôtir un poulet. Au lieu d'embrocher un poulet, vous embrochez un ballon de rugby, dans le sens de la longueur. Et en dernier, en laissant de l'espace, vous embrochez une balle de tennis. Il vous reste à imaginer que le ballon de rugby, c'est la Terre déformée par les océans qui sont attirés par la Lune, et la balle de tennis, c'est la Lune. La partie centrale de notre Terre ne cessant de tourner sur elle-même, les deux bosses permanentes se déplacent donc autour de la Terre, à l'opposé l'une de l'autre. Sur la Terre, dans les parties maritimes, cela se traduit par une onde qui se déplace et qui est plus ou moins forte selon les moments et les endroits. C'est la première notion pour comprendre les marées. J'insiste un peu sur cette déformation de la partie maritime de notre planète Terre, celle qui est face et au plus près de la Lune, ainsi que son opposé. Et comme la Lune ne cesse de tourner autour de la Terre qui tourne sur elle-même, cette zone maritime soumise aux variations change donc en permanence. Alors, me direz-vous, mais de combien se déforme-t-elle et comment ?
Ça dépend. S'il y a du vent.
Si... Ça vous rappelle quelque chose ?
Un matin, le même gars, il se pointe, il nous pose des questions. Je vais voir si vous savez votre opuscule du parfait soldat. Je vais vous poser les questions subsidaires et adéquates avec votre instruction. Je vais vous poser une question au hasard, n'importe laquelle. J'en cherche une qui a une réponse. On était tous les 500, je vous dis, il y avait les gars de HEC, il y avait les polytechniques, je vous dis. Combien de temps met le fût du canon pour se refroidir lorsque l'obus est sorti du canon? Vous. Ça tombe pas sur moi, il y a un coup de peau. Hein. Le gars, il fait... Oh, pff. Ça dépend. S'il y a du vent. S'il pleut. Je vous demande pas ça, Andouille. Je vous demande la réponse qu'il y a décrit là-dessus sur votre opuscule du parfait soldat. Vous devez savoir, non? 10 minutes. Non!
Vous.
Il fait... Oh, il a dit 10 minutes, lui. 10 minutes. Ben, on a un bon quart d'heure, hein? Non!
Vous.
4 jours. Tiens, vous me les ferez les 4 jours. Vous, là, combien de temps met le fût du canon pour se refroidir lorsque l'obus est sorti du canon?
30 secondes.
Non!
Vous.
1 minute. Non, on était 500. Il y en a qui dit 1 minute, l'autre 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Il y en a même qui marquaient la réponse des autres pour pas dire la même chose. Je m'en vais vous donner la réponse, moi! Bande de crétins! C'est pourtant simple, c'est écrit là, là, si vous l'aviez lu une fois. Lorsque l'obus est sorti du canon, le fût du canon pour se refroidir, mais il met un certain temps. Bande d'arbouilles!
Vous avez reconnu, bien sûr, M. Fernand Reynaud et son fameux sketch sur le fût du canon. Le deuxième principe, ce sont les différents moments de la marée. 3 acteurs sont sur notre scène de théâtre. La Terre, la Lune et le Soleil, qui vont nous montrer différentes configurations. D'abord, vous vous souvenez que la Lune a un cycle de 28 jours environ. Ça commence par la nouvelle Lune, puis le premier quartier 7 jours plus tard, puis encore 7 jours pour atteindre la pleine Lune, encore 7 jours pour le dernier quartier, et enfin 7 jours encore pour revenir à la nouvelle Lune. Si ces 3 acteurs, Terre, Lune et Soleil, sont alignés, une fois toutes les 2 semaines, alors les forces se combinent en s'ajoutant les unes aux autres. On aura donc les marées les plus fortes de la période du cycle de 28 jours, c'est le moment des vives eaux. Et nous avons cette configuration en période de nouvelle Lune et aussi de pleine Lune. A l'inverse, en période de premier quartier et dernier quartier, l'axe Terre-Lune-Soleil est brisé. Il y a un angle droit entre l'axe Terre-Lune et l'axe Terre-Soleil. Ils sont perpendiculaires. On dit aussi qu'ils sont en quadrature. Dans ce cas, les forces se neutralisent un peu. La marée est donc très nettement moins forte. C'est le moment de morteau. De la nouvelle Lune, moment de vive eau, et donc de forte marée, au premier quartier, moment de morteau, donc de petite marée, les marées vont donc diminuer petit à petit, l'une après l'autre, progressivement. De même, du premier quartier à la pleine lune, les marées vont remonter l'une après l'autre jusqu'à la forte marée de la pleine lune, puis redescendre jusqu'au dernier quartier et remonter ensuite jusqu'à la prochaine nouvelle lune, et ainsi de suite depuis des millions de lustres et encore des millions de lustres. Mais ce cycle de 28 jours s'inscrit dans d'autres cycles, notamment celui des équinoxes, jour où la durée du jour est égale à celle de la nuit. Équinoxe de printemps le 21 mars, équinoxe d'automne le 21 septembre. Lors de ces deux dates, les distances Terre-Soleil sont optimales et engendrent les plus grandes forces de l'année, donc les plus fortes marées de l'année, donc les plus gros coefficients de l'année. Mais on peut démontrer qu'il y a encore d'autres cycles englobant ceux que nous venons d'évoquer. Le cycle des 4 ans. Certaines années n'ont pas de gros coefficients, ni de très grosses marées. Et puis il y a aussi le cycle des 16 ans. Les médias ne sont pas les derniers à vous parler des marées du siècle. En réalité, il y a une marée du siècle tous les 16 ans. Le cycle des 16 ans est perpétuel, avec des années plus fortes que d'autres au sein de ce cycle. Reste un problème à régler. Je vous disais à l'instant que les marées les plus fortes du cycle de 28 jours ont lieu le jour de la nouvelle lune et celui de la pleine lune. D'accord, mais je vous entends déjà me dire « c'est faux ». On peut trouver sur Internet le jour et l'heure précise de la nouvelle lune, idem pour la pleine lune, donc de l'alignement pile-poil des planètes lune, terre et soleil. Or, la grande marée a lieu un jour ou deux après cette date heure de l'alignement des planètes. Alors pourquoi ? On arrive au troisième grand principe, l'âge des marées.
Et je reste des heures à regarder la mer, le cœur abasourdi, les pensées de travers. Et je ne comprends rien à ce triste univers. Tout est couleur de pluie, tout est couleur d'hiver. Je suis ce fier bateau qu'on vit un jour partir et qui n'en finit plus de ne plus revenir. La mer a ses amants qui s'enivrent de vin. La mer a ses amants qui se grisent à ses fêtes. Ne me comprends pas, ne comprends pas la mer. Je n'aurais donc été en ce grand univers qu'un de ces marins-là qui vont en solitaire. Et l'inutile cri d'une inutile fête.
Comme Alain Barrière, je suis très très souvent resté des heures à regarder la mer. Et c'est là que nous aurons recours à la bassine d'eau. Pour vous répondre, je suis obligé de vous faire faire une expérience de très haut niveau scientifique dans votre cuisine. prenez une bassine, si possible carrée de 40 cm environ de côté et 20 cm de hauteur. En fait, laissez-la où elle est, mais imaginez-la. Bon, ensuite, remplissez-la à 10 cm de hauteur d'eau environ. Prenez-la en main, bien en main, à droite, à gauche. Primo, vous la penchez d'un côté, sur votre gauche par exemple. Dans ce cas, l'eau à gauche aura 15 cm de hauteur. Et à droite, il restera 5 cm de hauteur. Mais au milieu, vous avez une ligne virtuelle où l'eau n'a pas bougé. Elle est toujours à 10 cm de hauteur, juste une ligne. Secondo, vous faites la même chose, mais d'avant en arrière, au lieu de gauche vers droite. Vous penchez vers vous, vers l'avant, et vous avez de ce côté 15 cm d'eau de votre côté et 5 cm de l'autre côté. Avec toujours au milieu la ligne virtuelle de 10 cm. Exactement 10 cm. Mémorisez-vous ces deux lignes de 10 cm. Elles sont perpendiculaires, bien évidemment, et se croisent en un point où l'eau est restée à 10 cm de hauteur. Appelons ce point le point zéro pour le moment. Regardez-le bien. Tournez votre bassine devant vous, dans tous les sens, et que voyez-vous ? Votre point zéro ne change jamais. À cet endroit, l'eau reste toujours de 10 cm de hauteur. Ça tourne autour, en changeant de hauteur partout, mais jamais au point zéro lui-même où rien ne bouge. L'eau a toujours la même hauteur. D'accord ? Résumons-nous. Un point zéro est donc un endroit où l'eau, la hauteur d'eau, ne change pas, quoi qu'il se produise autour. Je vous rassure, ne cherchez pas dans le dictionnaire le fameux point zéro, ça n'existe pas. C'est moi qui l'ai inventé, qui l'ai nommé ainsi pour que vous ayez un mot facile à retenir, correspondant au concept qu'il sous-entend. Mais restons-en là pour le moment, nous verrons le mot scientifique dans un instant. Mais qu'est-ce que ce point zéro vient faire ici ? Me direz-vous. On reste patient et on écoute. Au moment pile poil de l'alignement de nos trois planètes Terre, Soleil et Lune, naît une déformation de la Terre, comme une grosse vague, celle de la marée, qui part du pôle sud pour remonter tout l'océan Atlantique. Elle tombe sur un point zéro situé à 850 km à l'est du Canada, donc plus près du Canada que de chez nous. Au nord de l'Atlantique. Ce point zéro est là depuis des millions d'années. Il ne bouge pas, parce que les océans sont faits comme ils sont faits, les continents idem, et donc les points zéro tout autant. Ils sont là et on ne le savait pas. Et là, autour de ce point zéro, la vague va s'enrouler pour partir dans toutes les directions. L'une de ces directions, c'est la nôtre, celle de l'estuaire formé par la Manche, entre Angleterre et France, pour la zone qui nous concerne, de Brest jusqu'à Dunkerque. C'est ce qui nous donne la direction de la marée. Les marées se déplacent d'ouest en est. La marée arrive donc à Brest avant Saint-Malo, lui-même avant Étretat, etc. On peut même dire que la mer est haute à Dunkerque, alors qu'elle est déjà basse à Brest. La vague partie du pôle sud met un certain temps pour venir chez nous, en baie du Mont-Saint-Michel, en passant par le fameux point zéro. En réalité, elle arrive chez nous 2 jours plus tard. C'est ça l'âge de la marée, qui est donc d'environ 2 jours pour la baie du Mont-Saint-Michel. Jour et demi à Brest et 2 jours et demi à Dunkerque. Autrement dit, si vous connaissez le jour et l'heure de la prochaine nouvelle lune pile poil, ajoutez-y 2 jours, et vous aurez l'heure de la prochaine grande marée à Granville. Même chose 2 semaines plus tard avec la pleine lune, et ainsi de suite. Mais la vague qui vient du sud de l'Atlantique, qui a donc tourné autour du point zéro au nord de l'Atlantique pour venir chez nous, part aussi vers l'embouchure de la Méditerranée, à Gibraltar. Mais là, cette embouchure est tellement petite, tellement restreinte, qu'elle brise l'énergie, la force de la vague, pour ensuite s'écraser parce que l'estuaire s'élargit très rapidement entre l'Espagne et le Maroc. Et voilà pourquoi vous n'avez en Méditerranée que de très petites marées, et donc de tout petits marnages de 20 ou 30 cm au mieux, alors qu'ils sont de 15 mètres en baie du Mont Saint-Michel. Ok, cher ami Albert de Portitio, rappelez-vous, marnage, différence entre la hauteur de la mer à haute mer et la hauteur de la mer à basse mer. J'oubliais, notre point zéro. Il y en a combien des points zéro autour de la planète? Environ une vingtaine, dont deux en mer du Nord, tout proche de nous. Donc plus près de celui du nord de l'Atlantique, c'est vrai. Mais entre Dunkerque et Douvres, le détroit Angleterre-France se resserre, ce qui casse la vague venue du nord. Et en plus, le Cotentin tourne le dos à cette vague, ce qui l'empêche d'avoir une influence dans la baie du Mont-Saint-Michel. Je disais donc point zéro. C'est une appellation un peu perso. Le vrai nom scientifique de mon point zéro est... Il est, mesdames et messieurs, je demande votre attention, c'est le point amphidromique. Bonne nuit. Nous venons d'entendre le Gala Swing Quartet nous a donné sa version de la célèbre chanson de Charles Trenet, La mer. L'expérience a montré que seulement une personne sur 1000 de mes clients en baie du Mont-Saint-Michel se souvenait de ce nom, point amphidromique, alors que tous retenaient le point zéro. À vous de choisir. Un client qui m'a reconnu et rencontré dans les rues d'Avranches m'a même salué un jour en me disant « Ah, bonjour, monsieur point zéro !» Retenez ce que vous voudrez, mais sachez désormais ce qu'est l'âge de la marée. Mes chers amis, j'ai un petit souci. Lorsque j'écris mes textes, je ne sais pas combien de temps cela va durer en termes de réalisation d'émissions. Et là, je m'aperçois que mon chapitre 3 se termine, alors qu'il me reste à peine 10-12 minutes pour le chapitre 4. Nous allons donc consacrer le reste de l'émission à écouter quelques musiques sympathiques et nous reprendrons la suite de nos marées dans une prochaine émission.
Tout près du Cap Grillé, quand j'ai fini de pêcher, on se retrouve chez Léon, son Léon. On mesure les poissons en vidant des canons et on passe vite le cap car ça tape.
Bientôt plus de cap griné, encore moins de cap blanc né. Ce qu'on voit c'est nos nez, tout rouge. Et quand les verres que je lève ôtent le sel sur mes lèvres, moi je pense à Marie qui est partie.
Quand la mer monte, j'ai honte, j'ai honte. Quand elle descend, je l'attends. La marée basse, elle est partie, hélas. La marée haute avec un autre.
Lors le nez déguisé, je quitte l'estaminet et je regarde en rêvant le rideau. D'autre côté de la mer, les collines d'Angleterre montrent que le monde ici est tout petit.
Et à gorge déployée, sur le flot déchaîné, je l'appelle à grand cri, reviens Marie. Tête qu'à la molliment, pour pêcher quel bon temps, mon filet la remettra dans mes bras.
Les compagnons de la chanson nous interprétaient la célèbre chanson de M. Jean-Claude Darnal, « Quand la mer monte ». Et la mer, c'est aussi les jolis bateaux qui se promènent sur l'eau. Et un certain Georges Brassens avait un joli bateau qui s'appelait « Les copains d'abord ».
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits Castor et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Un bateau, ça accoste assez souvent dans un port, et un des ports les plus connus dans la chanson française est peut-être celui d'Amsterdam.
Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui chantent, les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a les marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam,
Il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils vous montrent des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant dans le port d'Amsterdam. Et y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon France. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors, le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port de l'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui boivent et reboivent, et qui reboivent encore. Ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam, d'Hambourg ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles, et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port de l'Amsterdam.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous poursuivrons donc notre histoire de marée la prochaine fois. Je vous rappelle que pendant la période estivale, les émissions sont diffusées toutes les 1, 2 ou 3 semaines, le dimanche à 11h, avec une rediffusion le mercredi à 20h. Rassurez-vous, si vous avez manqué un moment, il vous reste la réécoute de l'émission sur le site de Radio Sud-Manche. Et n'oubliez pas, j'attends vos commentaires et questions, remarques, etc. sur tombelaine@orange.fr. Bon dimanche et à bientôt.